Les podcasts
de Blast.
La droite arrive et dit les riches vont s'en aller. Et Zucman a une objection qui consiste à dire mais non, en réalité, on va mettre une exit tax. Et puis de toute façon, vous savez, les riches ont beaucoup trop d'intérêts et de choses qui leur sont favorables en France. Ils vont rester. Je trouve que ce n'est pas une bonne ligne argumentative. Moi, sur cette question, ma ligne serait plutôt la suivante. Ils veulent partir, mais c'est parfait. On leur montre la porte, on la leur tient si besoin est, ils la franchissent, et dans un sens uniquement, ils ne reviennent pas. On entend beaucoup que nous vivons dans un régime de démocratie. Moi, en lieu et place de démocratie, je parlerais plutôt d'oligarchie mitigée. Souviens-toi de 2023, les retraites. 70% de la population est contre. 90% des salariés sont contre. Tous les syndicats sont contre. Il n'y a même pas de majorité parlementaire pour la faire voter. Ça se termine à coup de 49-3. C'est un hold-up. Si tu veux, si ce n'est pas un moment de rupture démocratique, ça, pour reprendre les termes de Stéphane Foucard, qu'est-ce que c'est ? On ne saurait mieux dire que la médiation politique n'existe plus et que, comme avec les légions de la honte, vous pouvez bien aller vous faire foutre. Bon. La loi du plomb est aussi un indice de cette faillite du médiateur politique. L'horizon, la perspective de la gauche doit être anticapitaliste, pour des raisons qui sont très bien connues, hein, qui ont à voir avec la catastrophe écocide, le changement climatique, etc., etc. L'éthos du macronisme, c'est l'éthos du doigt fourré. C'est vraiment, on vous emmerde. On n'en a rien à foutre et on vous emmerde. C'est pour ça que je reviens à ce que je te disais au tout début, le plan Bayrou, c'est le truc de trop. Et c'est l'occasion ou jamais.
Bonjour Frédéric Lordon.
Bonjour Sébastien Fontenelle.
Tu es philosophe, avec un lourd passé d'économiste. Tu es notamment l'auteur de plusieurs livres hautement recommandables qui te situeraient plutôt vers la gauche du paysage politique.
Plutôt.
Par les temps qui courent.
Plutôt.
Le dernier paru étant, si je ne m'abuse, Pulsion, coécrit avec Sandra Lucbert et publié par les éditions La Découverte au mois de janvier dernier. On est ravis de te recevoir pour parler un peu de l'actualité politique qui est dominée ces jours-ci par l'annonce du plan du Premier ministre François Bayrou qui veut faire 44 milliards d'économies en 2026. Ma première question est donc relativement simple. Comment on pourrait qualifier ce plan en quelques mots ?
Écoute, en quelques mots, moi je dirais c'est le truc de trop. Alors, je vois bien que ce disant, je me dirige un peu hâtivement vers, disons, une analyse politique étendue, hein, qui demanderait à ce que le plan Bayrou soit réinscrit dans le tableau d'ensemble d'une situation politique installée dans la longue période, depuis en quelque sorte le début du macronisme, n'est-ce pas ?
Sur lequel on pourra revenir.
Sur lequel on pourra revenir. Et que c'est peut-être brûler les étapes, et qu'il faudrait commencer par le commencement, c'est-à-dire, en quelque sorte, par une analyse proprement économique des dispositions intrinsèques du plan, tu vois, avant de le réinscrire dans une totalité plus grande. Bon, ici, qu'est-ce que tu veux ? Il y a plein d'économistes hétérodoxes qui sont là pour faire le travail, qui ont déjà commencé à le faire, et qui vont en faire du petit bois. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces analyses que tous mes chers ex-collègues ne manqueront pas de développer. Et donc, si je veux continuer de jouer le jeu en quelques mots, mais cette fois-ci dans le registre de l'analyse économique, je dirais, c'est le triomphe de l'absurdité. Parce que tu vois bien, la politique de l'offre a échoué, donc intensifions la politique de l'offre, n'est-ce pas ? Hein, voilà. La stratégie qui consiste à enrichir les riches en dépossédant les pauvres nous a mené dans la situation que nous savons, donc enrichissons davantage les riches en dépossédant davantage les pauvres. Alors, à ce moment, je sais qu'il y en a qui me feraient certainement remarquer que non, c'est pas du tout une question d'absurdité. Car en réalité, c'est leur projet.
Parce que c'est notre projet !
Tu te souviens de ces cris de putois que Macron avait poussé pendant sa première campagne ? Et c'est vrai, mais d'une certaine manière, si tu veux, l'exposition dans le débat public te contraint, quoi que tu en aies, à des montées argumentatives en généralité. C'est-à-dire que tu ne peux pas te contenter de dire ben écoutez, voilà, mon projet, c'est que je suis le parti des riches, et on va se gaver comme des porcs, et puis les pauvres, ben, on va foutre la gueule dans le fumier. Merci de votre attention et n'oubliez pas de voter pour nous. Ça ne fonctionne pas.
Ça
marche pas bien. Donc, il faut toujours essayer d'articuler la réalité de ces arrière-pensées à des arguments d'intérêt général. Toute la théorie de la politique de l'offre, du ruissellement et toutes ces couillonnades sont là pour ça. Moyennant quoi, si on les prend au sérieux, et on peut d'une certaine manière, alors revient en effet le verdict de triomphe de l'absurdité.
Au sein de la gauche, il y a pas mal de voix qui s'élèvent en ce moment, depuis l'annonce de ce plan, pour demander l'application de la taxe Zucman, du nom de l'économiste Gabriel Zucman, qui consisterait dans les grandes lignes à instaurer un impôt plancher de 2% pour les 1800 plus grandes fortunes françaises, c'est-à-dire pour les 1800 contribuables dont le patrimoine dépasse les 100 millions d'euros. À ça, la droite répond que ça serait une mesure, d'une part, injuste. La droite extrêmement soucieuse de justice, donc, considère que ça serait injuste. Et par ailleurs, elle explique que ça ferait, pour le dire vite, fuir les riches, qui sont indispensables à notre économie et accessoirement à notre enrichissement.
Avoir une taxe internationalement connue à son nom, hein, comme la taxe Zucman, je trouve que c'est la classe. Tu vois. Il n'a pas manqué de s'attirer de hauts parrainages, tu vois, il y a toute une brochette de prix Nobel, puis pas d'ennemis celles qui ont écrit tribune pour la soutenir, etc. Donc c'est vraiment formidable. Maintenant, moi je te dirais que dans le tableau d'ensemble des patronages avantageux, c'est pas tant celui des prix Nobel qui m'impressionne le plus, c'est celui d'Alain Minc. Parce que quand tu émets dans le débat public une idée qui est aussitôt qualifiée par Alain Minc, je cite, de folie absolue, tu sais que tu es dans le vrai. Tu regardes dans la bonne direction. Minc, bon, connu, hein, c'est la boussole qui indique le sud, bon, son magnétisme est réglé sur l'Antarctique, il est comme ça. Voilà. Ce qui fait un repère fiable, hein, dans son genre. Il suffit de prendre l'orientation exactement opposée à celle qu'il indique et tu sais que tu es dans la bonne direction. Bon. Donc, cette taxe Zucman, sa présence est extrêmement bienvenue, hein, dans le débat public. Maintenant, moi, je vais te dire. La question des inégalités, et plus particulièrement des inégalités monétaires, c'est-à-dire des inégalités de revenus et de patrimoine, n'a jamais suscité en moi une très grande passion. C'est pas qu'elle n'est pas intéressante, c'est très intéressant. C'est pas qu'elle n'est pas importante, c'est tout à fait important. Mais, comment dire, c'est une critique interne au cadre du capitalisme. Tu vois, c'est une critique des excès du capitalisme à visée corrective dans le capitalisme. Et pour ma part, j'ai tendance à estimer, par les temps qui courent, que l'horizon, la perspective de la gauche doit être anticapitaliste. Pour des raisons qui sont très bien connues, hein, que vous connaissez bien ici, hein, qui ont à voir avec la catastrophe écocide, le changement climatique, etc., etc. Et puis j'ajoute que les inégalités monétaires ont pour mauvaise propriété de dissimuler une inégalité d'une autre sorte, qui alors, elle, est absolument consubstantielle au capitalisme, et qui est une inégalité d'ordre politique, qui est inhérente au rapport salarial même, en tant qu'il est l'un des rapports sociaux constitutifs du capitalisme, rapport dans lequel, comme tu sais, la production collective est organisée de telle manière qu'il y en a les propriétaires qui commandent, et il y en a d'autres, les salariés, qui obéissent. Ce qui, tu me l'avoueras, n'est pas très démocratique. Si bien qu'au total, tu vois, la prétention d'une espèce de consubstantialité du capitalisme et de la démocratie apparaît comme une aimable fadaise. Alors effectivement, là-dessus, la droite arrive et dit les riches vont s'en aller. Et Zucman a une objection qui est partagée par beaucoup de formations politiques à gauche, il y en a pas finalement des formations politiques à gauche, hein, il y en a pas tant que ça. Mais c'est une ligne argumentative qui a été reprise notamment par la France Insoumise, qui consiste à dire mais non, en réalité on va mettre une exit tax. Et puis de toute façon, vous savez, les riches ont beaucoup trop d'intérêts et de choses qui leur sont favorables en France, ils vont rester. Et moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Je trouve que c'est pas une bonne ligne argumentative, parce que si tu veux, si jamais on monte un peu la température et qu'au bout du compte, il y en a qui finissent par partir pour de bon, alors on dira, alors là, vous voyez, là, ils s'en vont. Donc, c'est pas bon du tout, il faut s'arrêter. Moi, sur cette question, ma ligne serait plutôt la suivante. Ils veulent partir, mais c'est parfait. On leur montre la porte, on la leur tient si besoin est, ils la franchissent, et dans un sens uniquement, ils ne reviennent pas. Au passage, alors, on peut effectivement leur appliquer une exit tax, ou je sais pas, une confiscation de leurs avoirs financiers. Enfin, ce que je sais, on peut avoir de l'imagination. Et en réalité, moi, c'est pour ça que le plan Bayrou m'a fait bondir, et notamment en entendant ce genre de choses, parce que je me souviens de la crise des subprimes en 2008, dans laquelle l'analyse avait fini par incriminer, tu sais, les formules de rémunération des traders avec leurs bonus, qui c'était un système d'incitation qui les poussait à faire littéralement n'importe quoi. Et à ce moment-là, on a entendu des gens qui disaient « Mais non, non, attendez, si vous commencez à réguler la rémunération des traders, ils vont s'en aller. » mais oui, mon vieux, c'est exactement ce dont il s'agirait, c'est qu'ils s'en aillent. Et ils ne nous manqueront pas.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu réponds à l'argument, aux arguments, pardon, selon lesquels, d'une part, ce sont les riches qui créent des emplois, et d'autre part, qui, par conséquent, presque sauvent l'économie française.
Oui. Si tu veux, de tous les moulins à prière néolibéraux, je crois que c'est celui qui tourne le plus vite. Et c'est normal parce que, d'une certaine manière, il est au cœur de cette malversation intellectuelle. En quoi consiste l'idéologie, mais telle que Marx l'avait définie? Et qui a pour effet de transfigurer les intérêts particuliers d'un groupe social en intérêt général. Donc, ils nous sont indispensables, on ne peut pas faire sans eux. Bon. Et on ne peut pas faire sans eux pour deux raisons. La première, c'est qu'ils investissent dans l'économie, sans eux, pas de financement de l'économie. Et la deuxième raison, c'est qu'ils créent des emplois. Ce sont deux contre-vérités absolument notoires et qu'il faut absolument démonter dans le débat public. Alors, on y va méthodiquement et dans l'ordre. Premièrement, ils investissent dans l'économie. Bon. Alors écoute, je te propose, pour donner une illustration un peu vivante à tout ça, je te propose une expérience de pensée qui va te prendre pour sujet. Bon, tu es connu comme cette personne qui nous régale de chroniques abrasives sur Blast, etc. Mais tu es aussi un jeune entrepreneur. C'est une expérience de pensée. Tu es un jeune entrepreneur. Bon,
alors c'est ça, vraiment une expérience
oui,
de pensée,
mais...
pour le coup.
Alors, ça se sait moins, mais tu as monté une start-up.
Ah,
et, ah oui, genre, elle a, tu as monté
j'ai bien fait de venir.
Oui, oui, parce qu'elle a marché du tonnerre. Alors, bah, comme tous les start-upeurs, au bout d'un moment, tu l'as revendu un saladier. Et maintenant, tu es cousu d'or. Tu es riche à millions. Alors, qu'est-ce que tu fais de ce paquet d'osier? Bah, tu vas chez ton banquier. Et puis, avec le ton ferme dont tu es accoutumé, tu lui dis « Placez-moi ça, il faut que ça crache. » Alors, même si on Fontenelle, c'est parfait, je vous propose une solution d'investissement, on va acheter des actions. Ça finance l'économie, ça. C'est formidable, c'est très bien. Alors, tu dis bah, « C'est parfait. » Alors, on va prendre un exemple, tu vois, pour que ça soit simple. Il va t'acheter, tu lui demandes d'acheter du Total. Total, belle entreprise, n'est-ce pas? Alors, il achète du Total. Alors, comment il fait? Eh bien, il va sur les marchés financiers et il passe un ordre d'achat de Total. Et puis, en face, il se présente un investisseur financier qui est partant pour te vendre son action Total. Tu vois bien que cette transaction, où il va y avoir un flux d'argent, n'est-ce pas, de toi à cet investisseur, cette transaction est un jeu purement interne au compartiment des investisseurs financiers. C'est-à-dire, l'entreprise Total ne voit pas la couleur d'une transaction qui a pour objet le titre de bourse Total, n'est-ce pas? Pour que l'entreprise Total envoie la couleur, il faut une situation et une seulement qui survient lors de l'émission de nouvelles actions Total. Ça, c'est ce compartiment de l'émission, c'est ce qu'on appelle le marché primaire. Au moment de l'émission, effectivement, se présentent des investisseurs financiers qui souscrivent aux actions nouvellement émises. Et là, il y a en effet un flux financier qui va des investisseurs financiers à l'entreprise Total, laquelle fera ce que bon lui semblera avec le paquet d'argent qu'elle aura à récupérer. Et sitôt cette opération réalisée, l'investisseur financier, désormais détenteur du titre Total, peut aussitôt aller le revendre à un autre investisseur financier, etc., etc. Et ce jeu de la revente, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est le lieu, c'est le tourniquet de la finance spéculative, auquel les entreprises elles-mêmes sont complètement étrangères. Alors maintenant, donnons des ordres de grandeur. Le marché primaire, les émissions d'actions, chaque année, c'est de l'ordre de grandeur de la dizaine de milliards d'euros. Et encore, ce sont les émissions brutes seulement. Je ne rentre pas dans ce détail. Le marché secondaire, c'est-à-dire l'encours des actions cotées avec lequel non pas la croisière, mais les investisseurs financiers s'amusent, c'est 3 000 milliards d'euros. Tu vois les proportions du pâté d'alouette. 10 milliards, 3 000 milliards. La proportion est de 0,3% d'un côté, 99,7% de l'autre. Je fais une petite parenthèse. Ici, il y a toute une série de vétilleux et de pinailleurs qui viendront me dire « il dit n'importe quoi ». Il confond les stocks et les flux, il ignore que le marché secondaire est indispensable à la liquidité financière, etc. Alors, je les rassure, je sais ça très bien, ces objections n'enlèvent rien à, disons, l'économie générale de mon argument. 0,3%, 99,7%. De sorte que toi, quand tu vas aller placer ton patrimoine, tu as 0,3% de probabilité de contribuer au financement direct des entreprises et 99,7% de probabilité de nourrir le jeu de la spéculation financière. Donc, tu me comprends? les riches qui financent l'investissement, ma cash. C'était le premier point.
Création d'emplois.
Création d'emplois. Alors ça aussi, je pense que c'est une des phrases les plus, une des ritournelles les plus universellement entendues. Les patrons créent les emplois. Là, on passe des riches, façon riche tout court, à les riches quand ils sont des grands patrons. Liliane Bettencourt, qui gatouille sur son tas d'or, Bernard Arnault, pas pareil. Bon. Bernard Arnault, c'est un patron, il crée des emplois. Les entreprises créent l'emploi. Eh bien non, les entreprises, les patrons, ne créent pas l'emploi. Ils n'ont absolument pas le pouvoir de créer l'emploi. Les opérations caractéristiques de l'entreprise en matière de travail, c'est pas créer l'emploi, c'est convertir en besoin, en force de travail, une demande qui leur est adressée et qui provient de la formation de la demande macroéconomique globale au terme de deux répartitions successives. Premièrement, comment cette demande macroéconomique globale sur laquelle les entreprises, à plus forte raison individuellement, n'ont strictement aucune influence, comment cette demande macroéconomique globale va-t-elle se répartir entre les différents secteurs d'activité? Puis, à l'intérieur de chaque secteur d'activité, comment elle va se répartir entre les diverses entreprises? Alors là, oui, en fonction de leurs efforts concurrentiels et de leur position compétitive. Mais tu vois bien que l'influence de l'entreprise, elle est de troisième ordre. Le premier ordre, c'est la demande macroéconomique globale, qui est réglée par la conjoncture, la politique économique. Le deuxième ordre, c'est la répartition intersectorielle. Le troisième ordre, c'est la répartition intrasectorielle. Par conséquent, les entreprises, ne créant pas leur propre demande, ne peuvent pas créer l'emploi qui y correspond. Ça se saurait. Si les entreprises pouvaient créer la demande qui va entraîner de la création de postes de travail, nous vivrions dans un capitalisme d'une parfaite stabilité, dans lequel il n'y aurait jamais la moindre crise, jamais la moindre faillite, etc., etc. Et là, moi, ça me refait immanquablement penser à un épisode qui était absolument délicieux, qui était celui du CICE. Voilà, la droite complexée de François Hollande avait mis en place le CICE, qui consistait en c'était un dégrèvement de cotisations sociales, mais c'était en dizaines de milliards d'euros que ça se passait, je sais plus si c'était 20 ou 30, je me souviens plus très bien. Bon. Et puis c'est normal, hein. Tu vois, on est socialiste, on pense que l'entreprise crée l'emploi, donc on lui fait la vie meilleure, par conséquent, elle va créer des emplois. Et à ce moment-là, je sais pas si tu te souviens, mais
Il était question de créer 1 million d'emplois.
Alors voilà, notre ami Pierre Gattaz, qui était le président du MEDEF, avait, apporté pour toute garantie à la création du million d'emplois la fabrication de pins, où il y avait marqué 1 million d'emplois. Oui, donc quoi, évidemment, on n'en a pas vu la couleur d'un seul. Et il y avait un épisode qui était...
Il y en a eu quelques-uns, mais si tu rapportes...
L'argent investi par emploi créé, c'est absolument grotesque. Bon. Et là-dessus, je me souviens que un journaliste dont je me demande encore si il était un peu retors ou totalement idiot, avait tendu son micro au président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Et il lui avait dit, bon ben voilà, le CICE est voté, vous allez maintenant créer des emplois. Donc tu avais dit, mais nous, on ne crée des emplois que si notre carnet de commandes est rempli. C'est-à-dire si on rencontre une demande.
Ce qui est vrai.
Et ce qui n'est pas à la portée des entreprises. Elles n'ont pas le pouvoir de créer leur propre demande. Donc de créer l'emploi qui correspond à cette demande. Par conséquent, les riches financent l'économie. Faux. Les patrons créent l'emploi. Faux également. Donc, à un moment, il va falloir renoncer à, tu vois, à toutes ces galéjades.
Ce plan Bayrou s'inscrit dans un moment assez particulier, dont on peut peut-être un peu arbitrairement, mais pas tant que ça, situer le commencement au mois de juillet dernier, avec le vol du résultat des élections législatives remportées par la gauche par Emmanuel Macron, qui donne le pouvoir à deux premiers ministres de droite. Mais ce moment lui-même s'inscrit, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, quand même dans une assez longue, presque une tradition autoritaire du macronisme depuis 2017. Comment on peut le réinscrire dans cette durée?
Mon impression est que le plan... C'est comme ça que je suggère de le voir. Hein. Le plan Bayrou est une espèce de quintessence du macronisme. Par conséquent, il donne l'occasion d'une incrimination d'ensemble du macronisme. Et c'est pour ça que je te disais au début, le plan Bayrou, c'est le truc de trop. Tu vois, c'est là le moment de réinscrire le plan Bayrou dans la totalité de la situation politique telle qu'elle s'est installée dans la longue période, disons depuis au moins 2017 et en réalité bien avant. Ce que je voudrais éviter par-dessus tout, c'est que la lutte ne se mène qu'à coup de mots d'ordre autour des jours fériés ou des remboursements, de l'augmentation des franchises. C'est pas que ça soit pas des questions importantes. Ce sont des questions très importantes, hein, pour ceux et celles que ça concerne. Mais si tu veux, si on s'en tient là, à mon avis, on loupe un coche. On loupe une occasion qui est précisément celle-là. L'occasion de mettre en accusation le macronisme dans sa totalité et, en gros, de lui présenter la facture. Parce que ça va faire bientôt 10 ans que ça dure, hein. Donc, le moment des comptes va finir par arriver. Et solder les factures à l'aide des seuls processus électoraux, comme tu l'as rappelé toi-même, c'est pas d'une efficacité garantie. Alors, en même temps, tu vois, il faudrait, puisque c'est l'heure des bilans, il faudrait dresser une espèce de tableau d'ensemble des accomplissements du macronisme, qui est une tâche qui défie l'esprit. On peut pas faire ça en 5 minutes au détour d'un entretien. Moi, je pense que c'est un exercice qui, en définitive, ressortirait au genre du livre noir. Il faudrait faire un livre noir du macronisme. Bon, alors, il faudra se mettre à plusieurs, c'est une entreprise tellement énorme. Mais, en effet, à défaut d'un bilan parfaitement exhaustif, je veux dire, le passé tout à fait récent permet de ramasser, mais à l'appel, parce qu'en réalité, toutes les semaines, il se passe une énormité des trucs. Moi, il y a une ou deux choses, hein, qui ont marqué ma mémoire récente. Il y a l'apparition, tu vas rire, hein, mais non, tu le sais déjà, la réapparition du scorbut en France. Mmh. C'est quand même tout à fait délicieux. Le scorbut, c'était la maladie de la circumnavigation au XVIe siècle. C'était un problème que se posait Magellan. Tu vois. Donc, normalement, on doit en être sorti.
C'est censé être réglé depuis un petit moment. Quoi.
C'est censé être réglé, normalement. Hein. Et j'ai vu un tweet, je sais pas si on dit tweeta au féminin, une tweeta qui s'appelle Manouk, bon, voilà, je ne connais pas, mais qui a eu un truc très drôle, qui a dit c'est la Scorbut Nation. Et voilà, c'est-à-dire on démarre Startup Nation et on finit Scorbut Nation. Je trouve que c'est un résumé...
Un raccourci assez parlant.
C'est une condensation synthétique qui est absolument parfaite. Bon, il n'y a pas longtemps encore, l'INED, je ne sais pas, ce n'est pas des azous hein, quand même, l'INED publie un rapport qui documente la remontée inquiétante de la mortalité infantile, tu vois. Et dans le classement européen, la France occupe désormais la 23e place sur un classement de 27 États membres. C'est quand même une performance également. Donc tu vois, c'est plein d'éléments rhapsodiques comme ça, mais qui composent un tableau et qui en vérité, chacun considéré séparément, sont incroyablement significatifs. Mais je vais te dire, en réalité, tout cet énorme gâteau de merde est surmonté, c'est peut-être ça le pire, par un appage qui est encore plus dégoûtant et qui fait signe en direction de ce que j'appellerais l'éthos du macronisme. Tu vois, c'est une manière de se comporter, l'éthos, c'est une disposition, c'est une manière de se tenir, de se comporter, etc. Et l'éthos du macronisme est à l'ignominie. Moi, c'est ça qui me frappe beaucoup. Je me rappelle, en 2017, juste après que Macron ait été élu, j'avais rédigé un texte, je me souviens plus où je disais que la bourgeoisie de pouvoir, c'est celle-là dont nous parlons, celle qui est à la tête de l'État, évidemment, mais du pouvoir économique, du pouvoir médiatique, etc. La bourgeoisie de pouvoir est une classe nuisible. Mais je pense que très vite, j'ai été en arrière de la main. Ce qu'il faut dire, c'est pas seulement la classe nuisible, c'est la classe ignoble. Ces gens-là sont ignobles. Alors là encore, il faut s'attacher à des choses récentes qui paraissent tout à fait anecdotiques, mais qui sont d'un anecdotisme en réalité très très profond. Tu vois. Par exemple, la Légion d'honneur, la promotion de la Légion d'honneur.
Déjà légendaire de la Légion d'honneur.
C'est ça. Déjà, on rit, quoi. Enfin, on rit, comment te dire. Sophia Aram, Marlène Schiappa, Alexis Kohler, tu vois, on a une espèce de panaché, là, qui est très représentative de ce que c'est que l'ignominie de la bourgeoisie de pouvoir. D'une manière générale, sous Macron, bon, ça devait déjà avant être questionnable, mais sous Macron, tout particulièrement, la Légion d'honneur, c'est la Légion du déshonneur, c'est la Légion de la honte. Le macronisme aurait été une entreprise de promotion systématique des plus dégueulasses. Mais dans tous tous les compartiments du jeu. Hein. Je veux dire, genre, en matière policière, Dieu sait que le macronisme s'est illustré, n'est-ce pas? Le préfet allemand a été multidécoré après les bons et loyaux services que tu connais, qui l'a rendu au pouvoir. Le commissaire qui avait commandé la charge qui a abouti à une militante d'attaque, Geneviève Le Guay, 70 ans hein, quand même, finisse à l'hôpital pour je ne sais plus combien de semaines avec une fracture du crâne, a été décoré. Le commissaire qui avait commandé la charge qui a abouti à la mort de Steve Maya Canisso a été promu juste avant son procès, tu vois. Donc, l'éthos du macronisme, c'est l'éthos du doigt fourré. C'est vraiment, on vous emmerde. Mmh. On n'en a rien à foutre et on vous emmerde. Bon, eh bien, c'est pour ça que je crois que le plan Bayrou, c'est avec tout ça, tu vois. Le gâteau, le nappage, la cerise dessus, c'est avec tout ça qu'il faut rompre avec pertes et fracas. C'est pour ça que je reviens à ce que je te disais au tout début, le plan Bayrou, c'est le truc de trop. Et c'est l'occasion ou jamais.
Il y a un épisode qui est pas complètement inintéressant quand même, qui est pour une part qui s'inscrit bien dans le processus que tu viens de décrire, c'est l'adoption de la loi du plomb.
Ah oui.
Le passage en force sur la loi du plomb.
Oui.
Avec cette deuxième partie quand même, qui est celle de cette pétition qui a déjà été signée au moment où on parle par beaucoup plus d'un million et demi de personnes sur le site de l'Assemblée, qui ont donc fait l'effort d'aller la signer, etc. Qu'est-ce que ça nous dit?
Alors, écoute, c'est... moi, je dans le registre de l'ignominie, il y a effectivement quelque chose qui m'a particulièrement frappé, que j'ai lu dans un papier, je veux dire, remarquable, de Stéphane Foucard.
Dans Le Monde.
Dans Le Monde, hein, où le papier commence par la description de cet épisode que beaucoup d'entre nous ont vu, je suppose, de Fleur Breteau, qui est une militante d'une association de cancéreux, qui, du haut de la tribune à l'Assemblée nationale, a pris à partie les députés qui venaient de voter la loi. Le début de l'article de Foucard est fracassant. Si tu permets, je voudrais le relire parce qu'on pourra difficilement faire mieux. « Sans cheveux ni sourcils, le visage émacié encore marqué par l'épreuve de la maladie et de son traitement, une femme assistait de l'un des balcons du Palais Bourbon au vote solennel de la proposition de loi du sénateur Laurent Duplomb. Fleur Breteau, fondatrice du collectif Cancer Colère, était invité par des élus de gauche à assister au vote. À l'adoption du texte par les députés de l'Arc Bleu-Brun et de leurs supplétifs du parti présidentiel, sous les applaudissements victorieux, Fleur Breteau a crié « Vous êtes les alliés du cancer et nous le ferons savoir. Et maintenant, accroche-toi. » En réponse, ainsi que l'ont rapporté des journalistes présents, des rires ont traversé l'hémicycle.
Hein? C'est donc bien ignominieux, en effet.
C'est donc bien ignominieux. Mmh. Voilà, c'est ça, l'éthos de la bourgeoisie de pouvoir sous le macronisme finissant. Donc, c'est quand même très, très impressionnant. Alors, ça ne nous empêche pas, si des questions de la loi du plomb, évidemment, de discuter par ailleurs, pour autant qu'on puisse le faire, et notamment autour de cette pétition hein, qui a ramassé, au moment où nous parlons, 1 500 000 signatures, tu le disais, et les compteurs, en fait, n'arrêtent pas de tourner en temps réel, c'est très impressionnant. Bon, moi, à propos de cette pétition, je serais tenté de faire un petit détour, si tu veux bien. Un petit détour parce que cette pétition et ses suites probables, nous disent quelque chose du paysage institutionnel politique dans sa globalité. Et là, il faut poser une ou deux choses préalablement. Nous avons le coutume de considérer, enfin, toi et moi, je ne suis pas sûr qu'on dirait ça, n'est-ce pas? Mais on entend beaucoup que nous vivons dans un régime de démocratie. Alors, minute papillon, hein, faut quand même y aller vite. Au moins, en lieu et place de démocratie, je parlerai plutôt d'oligarchie mitigée. Oligarchie en tous les sens du terme, c'est-à-dire au sens littéral étymologique, c'est le gouvernement du petit nombre, et au sens politique polémique que nous connaissons, les oligarques, bon, on sait ce que c'est, on sait qui c'est, n'est-ce pas? Et alors, mitigé, ça veut dire... Voilà, c'est mitigé. Ça. Alors voilà, c'est intéressant la question du mitigé. Mitigé, en principe, ça veut dire qu'il existe des forces de rappel qui ont pour vocation de faire remonter aux gouvernants les voix et les sentiments des gouvernés. Et ces forces de rappel se matérialisent au travers d'entités institutionnelles qu'on pourrait appeler des médiateurs. Alors des médiateurs, il y en a plusieurs sortes. Il y a les médiateurs politiques, il y a les médiateurs médiatiques, il y a les médiateurs syndicaux. La pétition a fait penser évidemment à ce qui se passe du côté des médiateurs politiques, bien sûr. Le propre de la crise actuelle et singulièrement du désastre macronisme, du macronisme, mais ça datait déjà d'avant, c'est la faillite de tous les médiateurs. L'effondrement de toutes ces médiations qui censément font entendre quelque chose des gouvernés ou gouvernants. C'est particulièrement spectaculaire dans le cas de la médiation politique, en l'occurrence de la médiation parlementaire.
Est-ce que tu peux préciser en quelques mots ce que tu entends par médiation politique ?
Médiation politique, c'est tout le travail qui fait connexion entre des gouvernés et des gouvernants qui sont séparés. En réalité, le propre de l'oligarchie, c'est un gouvernement séparé. Or, il existe des connexions synaptiques, si tu veux, plus ou moins ténues, plus ou moins consistantes, et qui font remonter un signal des gouvernés jusqu'aux gouvernants. C'est ça, les médiateurs, n'est-ce pas ? Et normalement, les parlementaires, qui retournent se faire engueuler dans leur circonscription, ça tombe là-dessous, ça tombe sous la catégorie des médiateurs. Ce sont des médiateurs. Mais les médias, c'est les médias au sens médiatique, les journaux, si tu veux, normalement, restituent quelque chose de l'opinion. C'est un peu la même chose. Alors, un médiateur politique, c'est essentiellement les parlementaires. Cette médiation s'est effondrée. La sphère parlementaire a été aspirée dans le pouvoir exécutif, elle n'est plus qu'une chambre d'enregistrement. Je serais tenté de dire que c'est là que j'ai un point de désaccord avec Stéphane Foucard, dont le papier, je le redis, est par ailleurs extraordinaire. Et c'est un point de désaccord qui porte sur son titre, parce que Foucard titre le papier « L'adoption de la loi Duplomb constitue un moment de rupture démocratique inédit. » Que ce soit un moment de rupture démocratique, personne n'en disconviendra. Moi, c'est inédit, si tu veux. Parce que, en réalité, la faillite de la médiation politique, dont il est question dans ce papier, finalement, la faillite de la médiation politique, mais je dirais la 30 ans d'âge, on pourrait la repérer au travers d'une scansion de ces grands moments. Moi, je trouve que ça tombe bien, nous sommes en 2025, c'est le 20e anniversaire. Le premier grand moment de l'effondrement de la faillite des médiateurs politiques, évidemment, c'est le traité constitutionnel européen. Si tu veux, c'est là qu'on s'est aperçu que ce qu'on appelle la représentation parlementaire est en réalité une gigantesque distorsion. L'écart entre la position des parlementaires au moment du TCE, qui était favorable, je sais pas, à 90%, tu vois, et le vote de la population, 55%, c'est pas une petite victoire,
Non.
On les a défoncés, réellement. Si tu veux, cet écart donne une figure pure à l'anamorphose parlementaire. L'anamorphose, tu sais, c'est ces images bizarres qu'on observe dans les miroirs déformants. Alors, ça fait un peu foire du trône, il y a un demi-siècle. Donc, le TCE 2005, c'était déjà un indice très très fort de ça. Et là, surtout la manière dont on s'est assis dessus, c'est la sphère parlementaire qui a récupéré les commandes et on sait comment ça s'est terminé en 2008 avec le traité de Lisbonne. Mais dans un autre genre très proche, souviens-toi de 2023, les retraites. 70% de la population est contre. 90% des salariés sont contre. Tous les syndicats sont contre. Il n'y a même pas de majorité parlementaire pour la faire voter. Ça se termine à coup de 49-3. C'est un hold-up, si tu veux. Si c'est pas un moment de rupture démocratique, ça, pour reprendre les termes de Stéphane Foucard, qu'est-ce que c'est ? Et puis alors, là, c'est peut-être... C'est curieux parce que j'ai l'impression que, tu vois, de tous ces épisodes qu'on existe, c'est celui qui a passé muscade le plus facilement. C'est le vol de 2024, qui, très honnêtement, ne peut pas être qualifié à moindre terme que de coup de force et peut-être même de coup d'État. C'est quand même quelque chose de proprement extraordinaire. Donc, on ne saurait mieux dire que la médiation politique n'existe plus et que, comme avec les légions de la honte, vous pouvez bien aller vous faire foutre. Bon. La loi Duplomb est aussi un indice de cette faillite du médiateur politique. Pas que du médiateur politique d'ailleurs, parce que il y avait toute une série d'autres entités institutionnelles, dont Foucard fait la liste, qui étaient candidates à faire remonter du discours, de l'argument, etc. Des sociétés savantes, l'université, le CNRS, des groupes de médecins. J'ai même vu dans la liste de Foucard des fédérations mutualistes. Et les mutuelles vont se retrouver à passer la serpillière derrière, tu vois. Je veux dire, c'est bon. Évidemment, toutes ces voix ont été méthodiquement ignorées. Bien sûr. Donc là, on a quelque chose, on a un ensemble qui est vraiment très, très spectaculaire, quoi.
Est-ce que depuis 2005, il n'y aurait pas cette petite différence quand même d'une espèce de allez, semblant de revivification d'une gauche un peu plus offensive depuis quelques années.
Ah oui, c'est vrai. Absolument. Mais c'est absolument vrai. Et puisque nous sommes dans la problématique de la médiation, précisément parlons-en, parce que la France insoumise...
revendique quand même le retour à la médiation politique, d'une certaine manière.
Oui, mais entre autres choses, je veux dire, pour moi, le travail de médiation qui n'épuise pas la question, hein, mais qui, en l'occurrence, me semble le plus spectaculairement visible, c'est la médiation qui redonne voix au quartier populaire. Je veux dire, il n'y avait aucune formation politique inscrite dans le champ institutionnel électoral, hein, tu vois, ce qui est déjà une restriction considérable. Mais il n'y avait aucune formation politique de cette sorte qui donnait voix au quartier populaire. Et là, ça c'est un travail de médiation, par exemple, typiquement.
Tu évoquais la médiation médiatique.
Oui.
On viendra aux médiations syndicales après.
Oui.
En quoi est-ce qu'elle aurait échoué ?
Eh ben, cette médiation médiatique, c'est celle qui donnerait véritablement et honnêtement, c'est-à-dire sans les guet-apens dont nous avons l'habitude sur les médias mainstream, la parole à des discours politiques, donc des formations politiques qui les portent, à des discours politiques dissonants, le cas échéant, significativement dissonants. Alors que tout ce qui est dissonant, et si tu veux, dans des critères de la dissonance qui se sont sensiblement abaissés, hein, tu vois, la dissonance, ça commence très très vite, hein, désormais, est aussitôt stigmatisé et méthodiquement massacré en plateau. Ce qui est bien certain, c'est que la transformation radicalissime de tout le secteur de la presse devrait venir, mais tout en haut de la liste, tout en haut de l'agenda d'un pouvoir de gauche qui parviendrait au pouvoir. De toute façon, il y va simplement des conditions de possibilité de sa réussite raisonnablement probable. Hors de ça, le massacre est assuré.
Assuré.
Oui.
Alors, je reviens rapidement au plan Bayrou pour t'amener vers ces médiations syndicales, puisque les grandes centrales, comme il est convenu de les appeler, ont convenu de se réunir, et se sont déjà, je crois, vus, pour éventuellement étudier la possibilité d'une mobilisation à la rentrée.
Est-ce que c'est un motif raisonnable d'espérer ? Écoute, pour tout te dire, bon, le suspense est insoutenable, hein. J'ai peur que non. J'ai peur que non. C'est très compliqué dans cette affaire parce que je voudrais qu'il aille sans dire que désormais, chaque fois que je vais dire syndicale ou médiation syndicale, je parle exclusivement des directions confédérales. Et que la différence est abyssale entre ces directions et la base.
Et leur base.
Voilà. C'est une question passablement douloureuse. Mais lorsqu'on analyse, disons, structurellement les institutions syndicales, que voyons-nous ? Nous voyons qu'elles sont devenues une composante institutionnelle d'un tableau institutionnel d'ensemble et que, comme telles, elles ont incorporé, intégré les intérêts du système institutionnel d'ensemble avec lequel elles n'ont plus aucun désir de rompre. C'est une position qui pouvait à la rigueur être tenable à l'époque du fordisme ou du tout premier néolibéralisme, c'est-à-dire en une période où le pouvoir de la parole syndicale existait encore, c'est-à-dire où il était entendu. Sous sa forme maximale, ça fait penser à ce qu'était la grève à la japonaise, tu sais. La grève à la japonaise, hein, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais dans les années 60-70, il se mettait un brassard où il y avait marqué « en grève ». Aussitôt, la direction arrêtait tout et ouvrait des négociations. Tu as bien compris que...
On est un peu loin.
Voilà. Depuis un moment déjà, si des salariés se mettent un brassard en grève, les patrons, c'est merveilleux, continuez mes bons amis, j'ai bien vu votre brassard, hein. Courage, tenons les cadences. Donc effectivement, ces stratégies-là de la parole syndicale en tant qu'elle est une parole institutionnelle est à efficacité tendanciellement évanouissante, et on n'en a jamais eu plus cruelle démonstration qu'en 2023 avec les retraites. Le front syndical parfaitement uni, hein, des millions de personnes dans la rue, avec au bout du compte, nib, rien du tout, tu vois. Alors, je voudrais pas faire le bouffon, hein, mais je me permets de dire que au tout début du mouvement des retraites, moi j'avais, j'étais intervenu pour dire cela exactement. Il n'y avait pas besoin d'être, tu vois, cartomancien pour se livrer à ce genre de prophétie. J'aurais dit, considérez ce que c'est que le blocos des institutions de la Ve République, le personnage complètement déréglé qui est à la tête de ces institutions-là, et sachez que vous pouvez mettre 5, 10 millions de personnes dans la rue, il ne se passera fucking rien. Et c'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Bon, moyennant quoi, il faut envisager de faire d'autres choses, parce que cette stratégie, les grèves perlées, République-Nation, etc., sont des stratégies
perdantes. Les journées de mobilisation.
Les journées de mobilisation, une toutes les semaines ou toutes les quinzaines, etc., sont des stratégies perdantes. Donc on n'arrête pas d'aller s'ensabler dans une mobilisation qui finit par s'épuiser. Donc il faut commencer à penser à d'autres choses.
Ça sera un peu peut-être ma dernière question, justement. C'est si on part de ce constat, un peu accablant quand même, que les médiations institutionnelles, politiques, syndicales, laissons les médias de côté, sont moyennement efficaces, pour rester poli, qu'est-ce qui reste? Quelles sont les issues encore possibles?
Ben voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est que lorsque tous les médiateurs sont faillis, l'oligarchie mitigée n'est plus du tout mitigée. C'est une oligarchie pure. Et lorsque les solutions institutionnelles d'expression de la contestation sont effondrées, alors il ne faut pas s'étonner que ce soient les solutions désinstitutionnalisées qui prennent le relais. À partir du moment où il n'y a plus d'options offertes par les médiations institutionnelles, alors c'est seule demeure l'option de, je ne sais pas comment l'appeler, le débordement. C'est-à-dire l'événement, le surgissement d'une révolte à caractère potentiellement insurrectionnel.
Dont on a eu un tout petit avant-goût, pas si petit que ça d'ailleurs, avec les Gilets jaunes.
Ah ouais, peut-être. Pas si petit que ça. C'est même exactement ça. Je trouve les Gilets jaunes sont une illustration pure et parfaite de cette dynamique de longue période des fonds de lent effondrement des médiations institutionnelles. Parce que la contestation populaire, en réalité, est incroyablement bien élevée. Elle commence en tout ce temps, tu vois. Et puis alors après, tiens, non, on ne nous a pas entendu. Alors après, elle parle. On ne l'entend toujours pas. Alors après, elle crie. Toujours rien. Alors après, elle hurle. Toujours rien. Alors bon, ok, d'accord, très bien, on a compris, on descend, on pète tout. Ah là, on commence à nous entendre un peu, tu vois. Alors à quel prix, hein, de répression,
élevé.
Voilà. C'est évidemment toujours ça la question. Mais tu vois, je m'en voudrais d'être le responsable de votre fermeture administrative parce que j'aurais lancé des appels à la sédition. Je ne lance aucun appel. D'abord, ça serait complètement bouffon. Et en quelque sorte, je fais juste une sorte de physique politique, tu vois, raisonnablement prédictive. Je vous dis, voilà l'état des forces, voilà les solutions d'écoulement des forces, celles qui se sont fermées, celles qui restent, ah bah tout va s'engouffrer dans celles qui restent. Et vous ne l'aurez pas volé, ajoutais-je. Voilà. Donc c'est comme ça que ça risque de se produire. Dans quelles conditions, je ne sais pas, déclenché par qui, je ne sais pas, tu comprends bien que c'est pas deux couillons dans un studio qui vont, n'est-ce pas? Bon, ça, enfin, un, en l'occurrence, donc oui, donc c'est pas de là. Mais, comment dirais-je? C'est peut-être en mettant bout à bout les discours d'un nombre suffisant de couillons que quelque chose percole doucement dans les esprits et puis qu'un jour, une étincelle venue d'on ne sait où, fait prendre la savane.
Il y a une toute dernière question que je voulais te poser en faisant un minuscule pas de côté, mais pas si loin de côté. Tu as été un des premiers, si je me rappelle bien, et je me rappelle bien, à parler de fascisation, il y a déjà maintenant pas mal d'années. On est à un peu moins de 2 ans de la prochaine élection présidentielle, avec une extrême droite qui monte, qui est pour une part au gouvernement d'ailleurs. Tu vois ça comment?
Je vais te faire une réponse mitigé à la limite du contradictoire. Bon, d'abord, oui, en effet, j'ai parlé de fascisation contre des bons amis qui me disaient « Non, tu exagères », etc., qui me faisaient valoir des arguments que j'avais bien en tête, qui ne sont pas complètement controuvés, qui sont des arguments qui disaient « Mais écoute, ce vocable politique a été complètement démonétisé à force d'abus ». quoi, tu vois. Je veux dire, Chirac était facho, Chirac, etc., etc. Oui, bon, c'est vrai. Sauf qu'il y a un moment où ça redevient vrai. Et le problème, c'est d'avoir l'idée du moment avec le moment, avant que le moment n'arrive. Parce que la loi avec les processus de fascisation, c'est que avant l'heure, c'est pas l'heure, mais après l'heure, c'est trop tard.
C'est trop tard.
Voilà. Et ça, c'est quand même très, très embêtant. Or, on va pas rentrer dans le détail de l'argument, mais si tu veux, il y a un nombre d'indices qui se sont accumulés sous le macronisme, lequel macronisme a réellement poussé tous les curseurs en avant et préparé un terreau absolument propice à ce que le processus soit complètement achevé, hein. Et la situation à cet égard est donc très inquiétante. Je vais te dire, moi, cette question, c'est la partie extrêmement pessimiste de ma réponse. La partie pessimiste de ma réponse se souvient d'une interrogation d'Anna Arendt, ça va te paraître bizarre comme référence peut-être dans ma bouche, qui, dans un livre qui s'appelle « De la Révolution », précisément, interroge cet usage étrange du mot « révolution » pour qualifier une espèce d'énorme changement historique, donc la production d'une énorme différence historique. Là où révolution, d'abord, c'est la révolution des orbes, comme on disait, la révolution de la mécanique céleste, c'est-à-dire l'éternel retour du même. Mmh. C'est quand même tout à fait étrange. Et l'une des raisons, c'est que révolution, au sens de la mécanique céleste, mais au sens transposable en politique, révolution est donc une figure de la nécessité implacable. C'est le truc contre lequel tu vas pouvoir rien faire. Mmh. C'est parti, c'est lancé, et tu vas te le prendre sur la gueule. Tu vois, c'est comme un tsunami. Une fois que c'est lancé, le tsunami a, en ce sens, un caractère révolutionnaire. Et donc, moi, dans les moments de pessimisme, il m'arrive de me dire, la vague fasciste est lancée.
On y va tout droit.
On y va tout droit. Et de toute façon, il n'y a peut-être pas d'autre moyen que de traverser cette épouvantable chose pour en sortir. Ça, c'est la mauvaise partie de la réponse.
Est-ce qu'il y a une bonne partie?
Alors oui, il y a une bonne partie possible. Il faut quand même bien voir que la France est un pays un peu particulier, non pas qu'elle n'ait aucune disposition au fascisme, nous savons très bien le contraire. Hein. Bon. Mais depuis le macronisme, en réalité, depuis une dizaine d'années, il y a une conflictualité politique qui est très vivace. Mmh. Je veux dire, il ne se passe pas une année sans qu'il y ait un mouvement social ou un événement politique quand même de grande ampleur. Donc, il y a de la réactivité dans le corps politique. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est pour ça, par parenthèse, j'y reviens, que la contestation du plan Bayrou ne doit pas être que la contestation du plan Bayrou, et que ça doit être la contestation du macronisme dans sa globalité. Bon, c'est ça, tu vois, c'est ce truc-là. Moi, je suis partisan d'une stratégie de la bouillabaisse. On met tous les motifs de contestation dans la marmite, et on pousse le feu à mort dessous. Voilà. Donc, il y a ça, qui est une ressource. Et puis, il y a le paysage proprement institutionnel électoral. Et là, tu l'as dit, depuis une quinzaine d'années, il y a un élément nouveau qui s'est installé dans le paysage, qui est une force classique, partisane, à visée électorale, de conquête du pouvoir, dans la Ve République, qui s'appelle la France insoumise. Et ça, quand même, ça produit quelque chose. Moi, je vais te dire... alors, j'ai eu plein de discussions avec des amis qui sont plus à gauche que la France insoumise, ce qui est très possible. Je ne serais pas loin de dire ce qui est assez facile. Mais...
C'est intéressant de le dire, quoi.
Oui, c'est intéressant de le dire.
Dans le discours public, c'est l'extrémité ultime de l'extrême gauche.
Non, mais voilà. À gauche de la France insoumise, il y a le vide de la terre plate. Tu vois, on chute. Bon. Donc, en effet, c'est possible. On ne va pas rentrer dans cette discussion de l'articulation des phénomènes institutionnels électoraux et des phénomènes politiques lato sensu, etc. Laissons ça de côté. Mais moi, je crois, ça va te paraître peut-être surprenant, mais je crois que, si on regarde les données strictement électorales, je crois que ça ne se présente pas si mal, 2027, pour la France insoumise. Pas si mal. Évidemment, tout le discours médiatique va être là pour matraquer que la France insoumise fait 2%, Jean-Luc Mélenchon est la personnalité la plus détestée de toutes les personnalités politiques françaises, que François Ruffin est la plus sympathique à tous et toutes, qu'avec Olivier Faure, ils feront une équipe du tonnerre, peut-être même en s'entendant avec Raphaël Glucksmann, là on aura le fin du fin, etc., etc. Mais tu comprends, comme tous ces messages sont émis à partir de l'une des institutions qui est tombée dans le plus profond profond discrédit de tout le paysage institutionnel, à savoir les médias, moi je pense que c'est plutôt à l'avantage de la France insoumise. Il n'y a rien de tel que d'être haï par ces gens-là. Ça, mmh. ça te rend immédiatement sympathique. Et ceci d'autant plus que nous sommes dans un état du champ politique institutionnel électoral tel que la France insoumise est devenue par le fait la seule incarnation d'une différence. Et moi j'ai toujours considéré que c'était ça, la martingale du succès. Mmh. La martingale, c'est d'incarner la différence dans un paysage qui, par ailleurs, est complètement homogénéisé. Il y a 20 ans, la différence, là où le bloc homogène était constitué de cette vasouille entre partis socialistes, RPR, etc., la différence, c'était le Front National. Et puis le Front National s'est totalement normalisé. Il est devenu eurolibéral. Pendant ce temps, les autres sont devenus aussi racistes que lui, si bien qu'entre les républicains, les macronistes, tu vois, je veux dire, sous ce rapport, on ne voit plus la différence. Bon, la seule différence maintenant, c'est la France insoumise. Mmh. Et ça, c'est un, si tu veux, c'est un magnète. C'est un pôle de captation de tout un tas de choses. Ajoute à ça l'émiettement de l'offre présidentielle qui est en train de se produire. On n'aura plus Macron, mais on aura bien Édouard Philippe. On aura, je sais pas quoi, tu vois, Villepin dans un coin, Retailleau dans l'autre, etc. Je pense que la barre de qualification pour le deuxième tour
va baisser.
Va baisser. Mmh. Et que là, il peut se produire quelque chose.
Merci. Merci infiniment.
Merci à toi, Sébastien.